Good morning, delegates.
Bonjour, mesdames et messieurs.
We are ready to begin.
Nous sommes prêts à entamer nos travaux.
Please find your seats.
Veuillez s'il vous plaît prendre place.
I am very pleased to call the.
Je suis heureuse d'ouvrir la 34e session du Codex Alimentarius. Je vais immédiatement passer la parole au secrétaire, à la secrétaire, pour qu'elle puisse vous expliquer le fonctionnement du système sonore, des microphones, etc. Madame, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je voulais simplement vous expliquer ce qui se passe du point de vue de l'interprétation. Vous avez diverses chaînes à disposition. 0 pour le direct. 1 anglais, 2 français, 3 espagnol, 4 russe, 5 arabe et 6 chinois. Quand on vous donne la parole, vous appuyez sur le micro et nous aurons le chronomètre qui se mettra en route car vous avez un temps de parole limité à quelques minutes. Je vous remercie. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci. Avez-vous des questions à propos de ce que vous venez d'entendre? Est-ce que tout le monde a compris comment fonctionne le système? Pas de questions. Nous pouvons donc avancer. Nous allons commencer par l'ouverture officielle de notre session de la commission du Codex Alimentarius par des commentaires de Dr. Margaret Younes de l'OMS, directeur du département de la zoonose et de la sécurité sanitaire. Je vous remercie. Vous avez la parole.
Okay. I was just wondering.
Je me demandais simplement si le microphone fonctionnait ou non. Excellence, Madame le Président, Mesdames et Messieurs, mon cher collègue et ami Samuel Yutsi de la FAO, chers collègues, Mesdames et Messieurs, au nom du directeur général de l'OMS, le Dr. Margaret Chan, je vous souhaite la bienvenue à la 34e session de la commission du Codex Alimentarius. Je ne voudrais pas prêcher à des convertis, mais j'aimerais quand même rappeler que la sécurité sanitaire des aliments est une composante essentielle de la sécurité sanitaire. Elle figure toujours au cœur de l'intérêt du public, ne serait-ce qu'en raison des répercussions importantes sur le plan sanitaire et économique qui s'inscrivent dans le sillage des événements concernant la sécurité sanitaire des aliments. Cette année, nous avons malheureusement expérimenté plusieurs situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments. Tout d'abord, au mois de mars, l'accident nucléaire au Japon qui a suivi le tsunami dévastateur a suscité de graves dégâts dans le nord-est du Japon. L'on s'est montré vivement inquiet de la contamination par des produits radioactifs dans les aliments, y compris dans les produits maritimes produits dans la région affectée. Et cette préoccupation a été partagée par les États membres. Plus récemment, une grave inquiétude s'est fait jour suite à la flambée d'Escherichia coli entéro-hémorragique qui était essentiellement centrée en Allemagne. Même si le nombre de nouveaux cas diminue et continue de diminuer, 40 patients sont déjà morts depuis le début de cette flambée et les enquêtes se poursuivent pour essayer de déterminer l'itinéraire suivi par l'infection. tout récemment des produits alimentaires et des boissons contaminés intentionnellement avec des plastifiants, en particulier des phtalates, ont été distribués dans de nombreux pays dans le monde. Tout cela illustre comment le marché des produits alimentaires est devenu mondialisé et à quel point les incidents qui se produisent peuvent rapidement se propager à d'autres pays, voire au monde entier. Cela souligne une fois de plus combien il est nécessaire de mettre en place des normes harmonisées au niveau mondial, d'abord et avant tout pour protéger les consommateurs, mais aussi pour faire en sorte que des pratiques loyales soient en vigueur dans le commerce international des produits alimentaires. C'est la raison pour laquelle les attentes vis-à-vis du Codex ont augmenté plus que jamais et les délibérations du Codex attirent davantage d'attention. Lorsqu'elle fait face à des situations d'urgence dans le domaine des produits alimentaires, l'OMS assure une coordination, une communication et une coopération étroite avec les autorités gouvernementales concernées, ainsi qu'avec les bureaux régionaux et les bureaux de pays, avec les collègues de la FAO et avec des organisations internationales telles que l'OIE, Organisation internationale des épizooties, et l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi qu'avec des experts dans tous les secteurs concernés, pour réagir aux inquiétudes et aux demandes des États membres, et ce, à temps, tout en fournissant une assistance technique pour régler rapidement les problèmes en question. Pendant ce processus de consultation et d'échange d'informations, le réseau InfoSan joue comme par le passé un rôle crucial. Il a montré l'importance qu'il y avait à partager rapidement des informations et à communiquer entre les protagonistes. Il a également donné la preuve que nous avions tout avantage à travailler ensemble. Vous le savez certainement, l'OMS s'est engagée dans un vaste processus de réforme qui a pour but d'adapter l'organisation au domaine de plus en plus complexe et en pleine mutation de la santé publique. Le programme de réforme met l'accent sur le renforcement des activités fondamentales de l'OMS, en particulier les activités normatives ainsi que la promotion et le suivi de la mise en œuvre des normes. Cela fait partie des priorités de l'organisation. La sécurité sanitaire et, dans ce contexte, la sécurité sanitaire des aliments figure en bonne place à l'ordre du jour de l'OMS dans ce processus de réforme. L'OMS demeure engagée et est prête à appuyer, comme elle l'a toujours fait, les travaux du Codex. L'OMS souligne combien il est important d'appuyer les normes mondiales sur un fondement scientifique solide. Les avis scientifiques fournis par l'OMS et par la FAO continueront d'être au cœur même du processus normatif du Codex Alimentarius. C'est un travail qui doit être poursuivi et renforcé si nous voulons que les décisions politiques s'appuient sur les meilleures informations scientifiques disponibles. Nous estimons que le renforcement des capacités, en particulier celles qui sont appuyées par le biais du fonds fiduciaire du Codex, sont une part importante et très pertinente de nos activités. Et nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur des attentes des États membres, alors que nous poursuivons nos activités conjointement avec nos collègues de la FAO. Pour conclure ces quelques remarques d'introduction, je me permets, au nom de l'OMS, de vous souhaiter à tous une réunion couronnée de succès et un très agréable séjour à Genève. Merci.
Thank you.
Je vous remercie,
Dr. Hounes. Nous allons maintenant entendre le Dr. Samuel Yutzi, directeur Division de la santé alimentaire de la FAO et responsable de la division de protection des consommateurs. Vous avez la parole.
Excellency.
Excellence. Madame Holbach. Madame Younes, Monsieur Younes, pardon, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un plaisir et un privilège de vous souhaiter la bienvenue au nom de la FAO à la 34e session de la commission du Codex Alimentarius. Je voulais me faire l'écho de ce qui vient d'être dit par le docteur Younes. 49 ans après la conférence conjointe FAO-OMS sur les normes alimentaires de 1962 qui a créé le Codex, la nécessité de normes internationales alimentaires est plus grande que jamais. Un exemple, l'an dernier, le Codex a adopté des directives spécifiques pour réduire les risques en matière de sécurité sanitaire des aliments microbiens associés aux légumes feuillus frais, y compris ceux qui sont les plus populaires, à savoir les salades pré-emballées, prêtes à la consommation, coupées, fraîches. Et les mêmes directives contiennent également des orientations sur la façon dont produire des pousses germées. Comme on l'a dit, le dernier incident en matière de sécurité sanitaire des aliments liés à ces produits est très récent. Il a provoqué des décès, des maladies et une perturbation du commerce. Nous aimerions tous connaître les raisons exactes de cela. Comment le pathogène est-il arrivé sur les pousses germées et les salades? Les règles existantes ne sont-elles pas suffisantes ou n'ont-elles pas été suivies? Et dans ce cas, pourquoi ne l'ont-elles pas été? Comme toujours, à chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, la FAO et l'OMS coopèrent étroitement et ont créé et font et utilisent des outils essentiels tels que InfoSan et la sécurité des produits alimentaires M-Press pour encourager la communication, coordonner la réponse, prévenir le fait que de tels incidents se présentent ou pour limiter leurs effets. Que la contamination soit due à des conditions de culture, de catastrophes naturelles, de négligence ou d'adultération, les outils internationaux sont conçus pour protéger la population et pour assurer la poursuite du commerce. Les journalistes, les militants parlent d'une série de scandales alimentaires provoqués par ce qu'ils disent, par ce qu'ils appellent un système de produits alimentaires globalisés, industrialisés, travaillant au coût le plus bas, incitant les agriculteurs et les éleveurs à réduire les frais au maximum et exposant ainsi le public à des risques sans précédent. Ils parlent d'un système alimentaire global cassé et demandent qu'un nouveau modèle radicalement différent de produits alimentaires et d'agriculture soient mises en place. Nous prenons ces commentaires au sérieux. La FAO sait qu'en tant qu'organisation fondée sur les connaissances, nous devons pouvoir nous adapter constamment aux nouveaux défis et les changements doivent être fondés sur des faits, sur la science et la réflexion et non pas en raison à la suite d'opportunisme ou de réactions de panique. Nous savons également que deux choses ne changeront pas. L'agriculture dans son ensemble, y compris les pêcheries et les forêts, doivent continuer à pouvoir alimenter toute la population de cette planète. Et cela doit pouvoir être fait de façon propre, sûre et durable. Donc, peu importe la façon dont notre système s'adaptera, il sera toujours nécessaire d'avoir des orientations sur la sécurité sanitaire des aliments et le commerce. Et le Codex Alimentarius devra se fonder sur la science et sur la confiance entre nous tous ici dans cette salle. Cette année, la Commission adoptera en gros 30 normes, directives et codes de pratique. Et je n'en mentionnerai que 4. Le cadre d'analyse de risque pour la résistance antimicrobienne d'origine alimentaire, l'AMR, est en fait une préoccupation de santé publique majeure et également un problème de sécurité alimentaire des aliments. Quand les pathogènes deviennent résistants à des agents antimicrobiens, ils peuvent poser un véritable danger, risque pour la santé humaine et un échec éventuel de traitement, l'absence d'options de traitement, une probabilité accrue de gravité, la gravité de maladie. Nous voudrions féliciter la task force ad hoc dirigée par la République de Corée pour la préparation d'un nouveau texte excellent. Deuxième, la lutte contre le campylobactère et la salmonelle PPP dans le poulet. Ces deux pathogènes sont responsables de la plupart des maladies d'origine alimentaire dont il est fait rapport au niveau international et le poulet est considéré comme étant un des véhicules principaux de ces pathogènes. Le fardeau de la maladie, le coût des mesures de contrôle sont significatifs dans un grand nombre de pays. Les orientations du Codex aideront à limiter les coûts et à éviter une perturbation du commerce international. Troisièmement, la mélamine. Récemment, des niveaux élevés de contamination à la mélamine, ont provoqué la maladie et la mort. Le Codex a mis en place des niveaux maximums de mélanine dans les produits alimentaires pour animaux très rapidement, en une année. Cette année, la Commission adoptera les niveaux pour les préparations liquides pour nourrissons. L'éthyl l'étiquetage pour les produits alimentaires tirés de la biotechnologie moderne. Différentes approches existent entre les membres du Codex pour l'étiquetage des produits alimentaires tirés de la biotechnologie moderne. La compilation des textes du Codex pertinente à ce sujet reconnaît ceci et compile toutes les orientations existantes du Codex à ce sujet. Il est bon de savoir que vous êtes parvenu à la convergence, même si vous n'êtes pas encore au consensus sur tous ces sujets, et dans certains sujets encore plus complexes que je n'ai pas encore mentionnés. Je me rends compte que vous essayez toujours de raffiner le processus de rapprochement des opinions et de travailler mieux et de façon plus efficace ensemble, au-delà des frontières, en tenant compte des différentes cultures et attentes. La transparence, l'inclusion dans ces procédures internationales du Codex peuvent être réalisées grâce aux possibilités qui sont offertes à toutes les parties prenantes d'y participer. À cet égard, la possibilité offerte aux pays en développement de participer effectivement à ce processus est très importante. La FAO et l'OMS ont créé le fonds fiduciaire du Codex en ayant à l'esprit le renforcement de la participation des pays en voie de développement aux activités du Codex. Être là à une session de la commission ou d'un comité, être en interaction avec d'autres délégués, présente une perspective très différente que si on lit des documents ou qu'on écoute des enregistrements. Mais nous savons qu'une participation effective va au-delà du simple fait d'être présent. Pendant des décennies, la FAO et l'OMS ont aidé les pays à renforcer leur système de sécurité alimentaire des aliments qui ont jeté les bases de cette participation aux réunions du Codex. Je vous encourage à vous rendre dans le foyer où vous verrez que toute une série d'outils sont pour le renforcement des capacités et le transfert des connaissances sont disponibles. Un des documents de cette session fournit des informations détaillées sur les activités de la FAO et de l'OMS qui soutiennent le renforcement des capacités des pays membres dans le domaine de la sécurité et de la qualité sanitaire des aliments. Tous ces efforts ont apporté leurs fruits. Un grand nombre de pays participent maintenant de façon plus durable et efficace, qui envoient les mêmes représentants année après année, ce qui leur permet de mieux comprendre l'ensemble du processus. Ils font leur travail et ils viennent bien préparés. Le fonds fiduciaire est maintenant à mi-parcours et vous discuterez, vous en ferez l'examen et des changements éventuellement apportés à son fonctionnement. Les normes de sécurité sanitaire des aliments du Codex sont le fondement d'un système de sécurité sanitaire mondial. Les groupes d'experts, FAO, OMS, font un très bon travail dans ce domaine. Et non seulement répondent-ils aux requêtes des comités du Codex de conseil sur de nouveaux sujets tels que les analyses de risques et avantages, mais ils étudient également des sujets émergents tels que les nanotechnologies. L'initiative mondiale pour les conseils scientifiques relatifs aux produits alimentaires, GIFSA, créée par la FAO et l'OMS pour renforcer la base financière pour la fourniture de conseils scientifiques, est en place. Le Codex lancera son nouveau site web à cette session, qui devrait vous servir encore mieux que par le passé et veiller à ce que le monde puisse voir comment le Codex fonctionne de façon ouverte, transparente et inclusive. La FAO poursuit sa réforme lancée en 2007. Bien des choses ont déjà été faites, d'autres sont encore nécessaires, et la nouvelle administration fera entrer de nouvelles idées dans l'organisation. Je suis sûr que vous aurez constaté que la FAO a élu son nouveau directeur général la semaine dernière, M. José Graziano da Silva. M. Graziano da Silva a reconnu dans sa première conférence de presse après son élection l'importance du Codex comme agence mondiale pour la sécurité sanitaire des aliments, qui est clairement ancrée dans ses travaux. La FAO est passée maintenant à un cadre de gestion fondé sur le résultat. Cela veut dire que le Codex et 14 autres organes qui sont de la FAO ont maintenant un nouveau niveau de responsabilité et de visibilité. Comme cela a été reconfirmé la semaine dernière à la FAO, la FAO continuera à accorder une vraie priorité au Codex et je cite, en attribuant des ressources adéquates au Codex, aux activités liées au Codex, à son programme de travail et budget pour l'exercice biennal 2012-2013. En fait, vous trouvez en un lieu unique. Vous qui faites partie de la commission du Codex Alimentarius, de ces comités qui nous rassemblent tous ici, c'est un lieu unique pour débattre, discuter, se mettre d'accord et parfois se mettre d'accord sur le fait d'être en désaccord, toujours en essayant d'œuvrer vers le consensus pour garantir la santé des consommateurs au niveau international et garantir des pratiques plus équitables du commerce alimentaire. Permettez-moi de remercier le bureau sortant de la commission, la présidente Karen Hulebach, les vice-présidents Sanjay Dave, Ben Maniendo et Knud Ostergaard pour leur travail infatigable pendant les trois sessions et pendant les travaux de la commission. Permettez-moi également de remercier tous les membres sortants du comité exécutif, les membres élus et les coordonnateurs de leur engagement et des efforts qu'ils ont déployés pour que le comité exécutif soit l'organe dynamique qu'il est devenu. Et je vous remercie tous d'être ici et de soutenir les travaux du Codex. Je vous souhaite bonne chance dans vos délibérations et de prendre des décisions sages. Je vous remercie.
Thank you very much.
Merci beaucoup, Dr. Yotsi. Je vous remercie tous deux d'avoir pris la parole au nom des organisations parrainantes, l'OMS et la FAO. Vous nous avez demandé de tourner notre regard vers l'avenir, certes, mais aussi de reconnaître que c'est aujourd'hui que nous forgeons l'avenir. Et ce sont des succès que nous devons réaliser aujourd'hui.
Those words. Donc merci pour vos paroles, merci pour l'inspiration que vous nous donnez. Nous allons maintenant faire une très brève pause, réorganiser la tribune et nous passerons ensuite à notre vrai travail. Je vous remercie.
Japan, please.
Le Japon a la parole. Merci, Madame la Présidente. Nous aimerions vous demander de nous permettre de dire quelques mots à propos de la catastrophe sans précédent qui a touché le Japon récemment. Nous aimerions exprimer nos condoléances sincères à tous ceux qui ont été touchés par cette catastrophe, qu'il s'agisse de Japonais ou de personnes d'autres pays. Nous mobiliserons toutes forces pour les aider à rétablir leurs forces et pour surmonter cette période extrêmement difficile. Nous avons bénéficié de la coopération des membres de la communauté internationale. Et pour ce qui est de la sécurité alimentaire des aliments, le gouvernement du Japon a déployé des efforts pour veiller à ce que les produits alimentaires contaminés par des nucléides qui dépassent les taux de régulation ne se trouvent pas sur le marché. Au nom de la population et du gouvernement du Japon, nous aimerions exprimer nos remerciements les plus sincères et notre reconnaissance pour l'assistance que nous avons reçue du monde entier. Je vous remercie.
Thank you, Japan.
Je remercie le Japon. Soyez assurés que nos pensées et nos efforts vous accompagnent alors que vous vous engagez dans un processus de redressement qui prendra beaucoup de temps, certes, mais qui, j'en suis convaincue, sera couronné de succès. Nous allons faire maintenant une petite pause pour réorganiser la tribune. Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place. Nous allons reprendre nos travaux.
Delegates, please.
Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place. Nous allons reprendre nos travaux. Le secrétariat a d'abord une communication à vous faire. Il s'agit des questions d'intendance et des événements parallèles qui auront lieu pendant la semaine, ou en tout cas aujourd'hui. Donc si vous souhaitez être informé des événements qui sont prévus pour la journée, je vous prie de bien vouloir prendre place. Et je vous prie également de chausser vos écouteurs.
Madame Secretary, please.
Thank you, Madame Chair.
Merci, Madame le Président. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que pour disposer de plus d'espace, nous allons ouvrir cette salle sur les salles 3 et 4, ce qui fait que nous pourrons agrandir la salle et nous aurons plus de place pour les délégations. Ensuite, j'aimerais vous donner le code pour le Wi-Fi. Le nom d'utilisateur est FAO et le mot de passe est Codex, le tout en lettres majuscules. D'autre part, j'aimerais également vous donner des informations sur les diverses manifestations parallèles à cette réunion. Il y aura également des changements concernant les salles de réunion puisque nous allons modifier la présente salle. Donc le premier événement parallèle est prévu à 13h. C'est une réunion des coordonnateurs, salle 11 au niveau 2. À 13h30 jusqu'à 14h30, il y aura un exposé de l'OMS et il faudra changer la salle de réunion. Ce sera la salle 5 au deuxième étage. Toutes les manifestations parallèles feront l'objet d'une liste qui vous sera distribuée et qui sera disponible au comptoir de distribution. Mais je voulais quand même vous signaler ces changements. Donc, salle 5, deuxième étage. Ensuite, il y aura également une réception qui sera organisée et vous êtes tous invités à cette réception qui aura lieu à partir de 18h jusqu'à 20h sur la terrasse de ce bâtiment. Vous êtes tous accueillis à cette réunion. D'autre part, il y aura des réunions régionales dont vous serez informés. La répartition des salles a été prévue pour les différents groupes régionaux et ce pour toute la semaine. Cela est également disponible au comptoir de distribution et nous aimerions préciser quels sont les changements de salles. Pour l'Union européenne, ce sera en salle 6, niveau moins 1, toute la semaine, à l'exception du jeudi, car il y aura une manifestation parallèle ce jour-là. Et je viens d'être informée que la réunion des chefs des délégations de la région africaine aura lieu en salle 15, au niveau 1, à midi aujourd'hui. Voilà les différentes manifestations parallèles qui sont prévues. Et puis, il y a également une autre manifestation de 13h30 à 14h30. Il y aura une réunion de la région Nouris.
Announcement concerning side event.
Voilà pour ce qui est des manifestations parallèles. Ensuite, il y a également une infirmerie au niveau moins 1, si vous en avez besoin. Salle 302. Pour ce qui est d'autres informations, nous demanderons à tous les pays qui ont des commentaires à faire de bien vouloir remettre leur texte au secrétariat d'ici le déjeuner. Voilà les communications que j'avais à faire. Je vous remercie.
Thank you, Secretary.
Je remercie le secrétariat. Ensuite, et comme je le fais de coutume, j'ai quelques remarques à faire à titre préliminaire. Ensuite, nous entendrons nos invités.
Surprise.
Donc, une fois de plus, je vous dis bonjour et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à Genève, où il fait un temps magnifique. Je vous souhaite également la bienvenue à cette session de la Commission du Codex Alimentarius. Je pourrais partager bien des réflexions avec vous ce matin, mais j'aimerais m'arrêter seulement sur quelques réflexions qui sont urgentes et essentielles pour les travaux de cette semaine. Depuis que nous nous sommes réunis l'an dernier, la crise alimentaire mondiale s'est poursuivie. La FAO continue de faire état d'une augmentation constante des prix du blé, du maïs, du riz et d'autres céréales essentielles. Elle continue aussi de constater, à regret, que de plus en plus de personnes déjà pauvres tombent de plus en plus profondément dans la pauvreté et la malnutrition. Le prix élevé des produits alimentaires représente un problème pour les pays en développement qui doivent importer des produits alimentaires. Et l'absence de normes alimentaires harmonisées ne fait que compliquer les échanges pour les pays en développement qui bien souvent n'ont qu'un seul produit à proposer au commerce, les produits alimentaires. Comme vous le savez, le Codex est un programme conjoint de deux institutions des Nations Unies, la OMS, Organisation mondiale de la santé, basée à Genève, et la FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, basée à Rome. La FAO, qui est la plus importante des institutions des Nations Unies, comptant des programmes qui touchent à pratiquement tous les aspects de notre vie, a élu il y a une semaine un nouveau directeur général, en la personne de M. Graziano da Silva du Brésil. Dans l'une de ses premières interviews, M. Graziano da Silva a déclaré que les gouvernements devraient travailler par l'intermédiaire du Codex pour mettre au point des normes alimentaires, parce que lorsque ces normes sont mises au point à titre privé, elles peuvent devenir des obstacles au commerce. D'autres préoccupations découlant des normes adoptées à titre privé viennent de leur manque de fondement scientifique, de leur manque de transparence et du fait qu'elles ne font pas participer toutes les parties prenantes. Une chose est claire, c'est que si le Codex ne peut s'acquitter de cette tâche, eh bien, ce sont les normes privées qui, inévitablement, viendront combler le vide. Monsieur Graziano da Silva a poursuivi et a dit que la FAO avait été créée pour rendre le monde meilleur pour tous et pour se débarrasser de la famine. Le nouveau directeur général de la FAO a reconnu clairement l'importance du Codex pour atteindre cet objectif. Et c'est ce que fait également le partenaire du Codex, l'OMS, et ce que fait de même l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes nombreux à être conscients du fait que l'OMC est de plus en plus préoccupée par ce qu'elle considère comme une tendance préoccupante à détourner le principe fondamental du Codex qui est de prendre des décisions fondées sur des données scientifiques. Cette tendance vient du fait que, sans raison, l'on met l'accent sur des préoccupations spécifiquement nationales et sur la législation nationale, qui sont en dehors des limites de la prise de décision du Codex. Le Codex est l'organe normatif fondé sur des données scientifiques sur lequel l'OMC doit compter. Le Codex fonde ses décisions sur les conseils scientifiques émanant du GECFA et de deux autres comités d'experts. Ce sont là des experts reconnus au niveau international, et je dirais même que ce sont les meilleurs experts au monde. Ce sont eux qui, depuis des décennies, ont donné des avis solides au Codex. Pendant cette réunion, nous allons adopter des centaines de normes fondées sur leur évaluation de risque et sur leurs conseils. Si nous ne parvenons pas à nous acquitter de notre tâche parce que des intérêts nationaux viennent fausser notre capacité à prendre des décisions fondées sur la science, eh bien cela risque d'avoir de graves conséquences. D'abord, le Codex va perdre son statut de point de référence mondial sur la sécurité sanitaire des aliments, et ce pour tous les consommateurs dans le monde. Et dans le même temps, nous allons perdre notre crédibilité et notre pertinence dans le domaine de la protection de la santé des consommateurs et dans le domaine des pratiques équitables pour le commerce des produits alimentaires. D'autre part, nous renoncerions à notre capacité à contribuer à une plus grande harmonisation des normes mondiales en matière de sécurité sanitaire des aliments. Maintenant, nous allons entendre la perspective de M. de Madame Gretchen Stanton, secrétaire du comité SPS de l'OMC. Madame Stanton, vous avez la parole.
Merci, Madame le Président. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que je rappelle à qui que ce soit l'importance que revêt le Codex, car il aide les États membres de l'OMC à répondre à leurs obligations juridiques. Et cela est particulièrement important pour les pays en développement, car ils doivent veiller à ce que les produits alimentaires qu'ils importent et qu'ils exportent soient sûrs. Bien souvent, ces pays n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre en place leurs propres exigences en matière de sécurité sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle ils doivent s'appuyer sur les normes du Codex. Il n'est donc pas surprenant de constater que le comité SPS discute fréquemment du Codex et des normes internationales. Et je dirais d'ailleurs que le comité SPS est chargé de suivre de près l'utilisation des normes internationales. Par le passé, on s'est souvent demandé où est-ce qu'il y avait un manque de normes internationales. Mais depuis octobre 2009, un certain nombre de membres de l'OMC n'ont cessé de faire état de leurs préoccupations, une préoccupation beaucoup plus fondamentale. Ce qui les inquiète, c'est que l'on ne parvienne pas à adopter des normes internationales qui soient mises au point conformément aux procédures du Codex, alors que par ailleurs, l'on peut adopter des normes qui ne seraient pas conformes à l'accord SPS. L'accord SPS crée des obligations juridiquement contraignantes pour les États membres de l'OMC, mais pas pour le Codex. L'une des obligations sous-jacentes pour les gouvernements consiste à veiller à ce que toute mesure concernant la sécurité sanitaire des aliments se fonde sur des preuves scientifiques et sur une évaluation des risques et n'impose pas de restrictions au commerce au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la santé. Cela étant, le SPS donne au gouvernement deux possibilités, deux options pour répondre à leurs obligations. D'une part, ils peuvent utiliser les normes internationales, par exemple les normes du Codex, comme base de leurs exigences nationales. D'autre part, ils peuvent s'appuyer sur un autre ensemble de preuves scientifiques d'évaluation des risques pour prendre leurs décisions. En faisant référence aux normes du Codex, l'accord de l'OMC présume que les normes du Codex se fondent sur des preuves scientifiques, sur une évaluation des risques et que ces normes ne sont pas plus restrictives des échanges que nécessaires. Si l'on adoptait des normes internationales qui ne répondraient pas à ces critères, cela reviendrait à créer une contradiction interne au sein de l'accord SPS et dans les obligations juridiques qui sont imposées aux gouvernements membres. En fait, l'accord SPS encourage les gouvernements à fonder leurs mesures sur des normes internationales. Et si les prescriptions nationales sont pour l'essentiel identiques aux normes internationales, il y a une présomption qui coule de source selon laquelle le gouvernement va respecter l'accord SPS. Mais cette présomption est contestable. Supposons, par exemple, qu'une réglementation nationale se fonde sur une norme internationale qui ne soit pas la moins restrictive pour les échanges commerciaux ou qui ne soit pas fondée sur une évaluation des risques. En pareil cas, le gouvernement pourra être considéré comme étant en violation des obligations juridiques qu'il s'est imposées par le biais de l'accord SPS. Et cela risque de remettre en cause la valeur du Codex. Ce n'est pas quelque chose que nous souhaiterions voir se produire. Il est important de rappeler que l'accord SPS reconnaît que les gouvernements peuvent souhaiter s'appuyer sur d'autres études scientifiques ou sur d'autres évaluations, ou que le niveau de protection de la santé émanant de la norme internationale ne soit pas jugé suffisant pour répondre aux prescriptions nationales. Par conséquent, l'accord SPS autorise les gouvernements à choisir les preuves scientifiques et les évaluations de risque sur d'autres possibilités, pour autant que cela respecte les accords SPS. L'accord SPS autorise l'adoption de normes internationales qui respectent la protection de la santé des consommateurs, tout en autorisant les pays à adopter des mesures différentes. J'aimerais juste dire quelques mots concernant le mécanisme de règlement des litiges à l'OMC. Il s'agit d'un mécanisme officiel que n'importe quel membre de l'OMC peut saisir pour remettre en cause un autre membre de l'OMC concernant le respect de ses obligations. C'est un mécanisme qui est juridiquement contraignant, mais c'est également une procédure de dernier recours. Pour remettre les choses dans leur contexte, je rappellerai qu'il y a eu environ 8000 mesures relatives à la sécurité sanitaire des aliments qui ont été notifiées à l'OMC. Il y a eu environ 120 problèmes commerciaux spécifiques concernant la sécurité sanitaire des aliments qui ont été soulevés dans le cadre de l'accord SPS. Il y a eu seulement 7 problèmes liés au SPS qui ont été examinés par le biais du mécanisme de règlement des litiges. Et il y a eu seulement un problème commercial spécifique concernant la sécurité sanitaire des aliments, dans lequel l'on a constaté que le gouvernement n'avait pas respecté ses obligations découlant du SPS. En pareil cas, le gouvernement n'a pas perdu parce qu'il utilisait les normes du Codex. Il a tout à fait le droit d'avoir recours à d'autres preuves scientifiques ou à prendre des mesures qui ne sont pas compatibles avec le Codex. Ce droit a été réaffirmé au cours de l'examen de ce cas. Cela étant, le gouvernement avait présenté des preuves pour étayer ses décisions et ces preuves ne donnaient pas de justification scientifique à l'interdiction à l'importation qui avait été imposée par ce pays. Le Codex et l'OMC sont deux institutions tout à fait différentes, dotées de mandats différents et de méthodes de travail différentes. Cela étant, nous partageons un objectif commun, très important. Ce que nous voulons, c'est aider les gouvernements à veiller à ce que les produits alimentaires qui traversent les frontières ne présentent pas de risque pour la santé humaine et que, dans le même temps, les prescriptions sanitaires n'imposent pas de restrictions injustifiées aux échanges commerciaux. N'oublions pas cet objectif, gardons-le à l'esprit tout au long de nos travaux, parce que notre santé et la santé de nos enfants en dépendent. Merci.
Thank you.
Merci, Madame Stanton. Je voudrais maintenant rappeler aux délégués que, alors que nous passons en revue l'ordre du jour, nous allons utiliser le chronomètre et pour les interventions normales, régulières de votre part, nous limiterons la durée de vos interventions à 2 minutes. Vous obtiendrez un signal qui vous indiquera que vous avez déjà, ou vous êtes déjà passé au milieu, dépassé plus d'une minute. Le feu passera à l'orange pour vous rappeler de conclure. Avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais faire une brève annonce, comme je le fais à chaque fois à cette réunion au même moment. À propos de la participation de l'Union européenne à nos travaux, comme elle le fait conformément à l'alinéa au paragraphe 9 de l'article 2 de la Constitution de la FAO et à la règle 2 du règlement intérieur du règlement du Codex Alimentarius. J'ai été priée de vous dire que la déclaration faite par l'Union européenne et ses États membres se trouve dans le document CRD1. J'attire votre attention sur cette déclaration. Je crois que les choses sont très clairement indiquées pour nous tous. Cette fois-ci, je vois que le représentant de l'Union européenne souhaite peut-être rajouter un éclaircissement à ce sujet. L'Union européenne a la parole.
Présidente, et bonjour à tous les délégués. Nous sommes très contents de vous retrouver tous dans cette atmosphère intime de cette petite salle. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir mis à la disposition des délégations le document de séance numéro 1, qui présente la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres pour chacun des points de l'ordre du jour. Cette répartition de compétences se fonde sur le degré d'intégration de la législation européenne pour chaque point considéré. Lorsque la réglementation de l'Union ne couvre que partiellement la question, la compétence est mixte et le droit de vote peut être attribué soit à l'Union européenne, soit aux États membres en fonction de ce niveau d'intégration. Conformément aux règles du Codex, lorsque le représentant de l'Union européenne s'exprime sur une question pour laquelle l'Union européenne a le droit de vote, la position exprimée correspond à la position des 26 délégations des États membres présents à cette session de la Commission du Codex Alimentarius. Lorsqu'une position commune existe sur une question pour laquelle les États membres disposent du droit de vote, cette position sera exprimée par la délégation de la Pologne, qui est l'État membre présidant l'Union européenne durant ce semestre. Madame la Présidente, nous restons bien sûr à la disposition des délégations qui désireraient plus d'informations. Merci beaucoup.
Thank you.
Je remercie l'Union européenne. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'Union européenne sur ce point de la division des compétences? Non? Merci. Merci beaucoup de vos explications très claires.